politique.
Monsieur David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada.
Moi, David Lametti, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Bon, mais c'est une voie à laquelle on va devoir s'habituer puisqu'il a été assermenté ministre ce matin. C'est un ministre du Québec, David Lametti, donc député de la région de Montréal. C'est la nouvelle politique du jour, ça on peut le dire, pour en discuter. Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour Carl.
Bonjour Bernard.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut.
Alors vas-y Carl, fais-nous le portrait, le résumé de ce remaniement. Qui n'est pas aussi mineur que ce qu'on nous avait laissé entendre, quand même.
Mais ça, c'est le problème avec les remaniements, c'est qu'il y a toujours un effet domino. Hein? On se rappelle que c'est dû au départ de Scott Bryson, qui était le président du Conseil du Trésor. Bryson qui dit qu'il quitte pour des raisons familiales, mais quand on demande à Justin Trudeau si ça ne serait pas relié avec le fait que Scott Bryson devra témoigner dans le procès du vice-admiral Norman et que ça pourrait être relié parce qu'on ne veut pas avoir un ministre qui répond à des questions devant un juge, on a une réponse un peu coussi coussa. Alors,
ça, c'était la semaine passée, là, quand la question, quand Bryson a annoncé qu'il partait, puis les journalistes ont dit à M. Trudeau, lui, là, Bryson, il dit qu'il part à cause de sa famille, mais ça se pourrait-tu qu'il parte à cause du scandale puis du procès à venir autour de l'amiral, le vice-amiral Norman, puis ça a donné cette réponse-là? Où...
La question l'a rendu asthmatique, pour vous dire. C'est...
Alors, ça nous amène à aujourd'hui, remaniement.
Oui, donc effet domino. La grosse nouvelle, ben en fait, c'est la promotion de David Lametti. David Lametti, qui était jusqu'à maintenant le secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie et de la Science et de la Technologie, c'est toute une promotion. Entrer au cabinet en allant à la justice. Faut dire que David Lametti, diplômé de Yale, diplômé d'Oxford
en droit.
Il est vu comme compétent, clairement. Il est aussi vu comme loyal, mais pas vu comme hyper partisan. David Lametti, c'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules. C'est pas quelqu'un qui va dire n'importe quoi. Il prend son mandat très au sérieux. Évidemment, le fait qu'il représente, c'est un nouveau ministre du Québec, pour lui, ben c'est quelque chose d'important. On lui a posé quelques questions ce matin. On peut écouter sa réaction.
Je suis allé à travers le Québec pour le ministre Baines dans le ministère d'Innovation. Et donc, j'ai déjà, je dirais, une présence assez importante sur le terrain au Québec et dans les autres provinces aussi. Mais je suis un membre d'une équipe et je vais continuer à essayer d'être un leader dans le contexte de notre équipe.
Bon, ben écoute, essayer d'être un leader dans le contexte de son équipe. C'est des belles intentions, ça, mon Carl?
C'est des très belles intentions. Puis écoute, je pense que c'est une belle promotion pour lui.
Ben oui.
C'est un gros ministère. Mais ça veut aussi dire que si on a un nouveau ministre de la Justice, c'est qu'il y en a une qui a pris une débarque.
Méchante.
Écoute, Jody Wilson-Raybould, qui passe de la justice au ministère des anciens combattants,
c'est
toute une débarque, c'est toute une démotion. Écoute...
On l'avait pas vraiment vu venir, d'ailleurs, hein?
Pas vraiment, quoi qu'on entendait des choses. C'est quelqu'un qui est très indépendant d'esprit et qui défendait beaucoup au sein du cabinet toute la question des droits des Autochtones.
Elle est d'origine autochtone,
exact,
non?
Exact. Oui, et son père est un activiste très impliqué dans ces causes-là. Mais là, écoute, d'émotion importante. Dans l'ordre de préséance du cabinet fédéral, ça veut dire qu'elle passe de la 9e à la 30e place.
Oh là là! Est-ce que les nations autochtones pourraient y voir, elles aussi, une forme de rebuffade à leur endroit? On sait que Trudeau a fait quand même de la réconciliation l'une de ses grandes priorités. Est-ce que du côté des nations autochtones, est-ce qu'il risque de réagir négativement à cette nouvelle-là?
Bien, c'est certain que c'est pas une bonne nouvelle. Hein? On a quelqu'un qui perd vraiment beaucoup de galons et elle le sait elle-même. Écoute, son langage corporel aujourd'hui, là, quand tu regardais la cérémonie d'assermentation, elle n'était pas, mais alors pas du tout heureuse d'être là. C'est vraiment toute une démotion. Mais là, tu parles des affaires autochtones. On a un nouveau ministre au service aux Autochtones. c'est Seamus O'Regan.
Attends un peu, là. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Oui. Seamus O'Regan, ça, c'est un Terneuvien, n'est-ce pas?
C'est un Terneuvien. C'était lui qui était aux Anciens Combattants. Donc, l'effet domino, encore une fois, Wilson Rebo s'en va aux Anciens Combattants, lui, il faut qu'il aille ailleurs. Ouais. Il s'en va au service aux Autochtones.
Parce qu'il faut dire que la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Mme Philpott, elle est partie des Autochtones pour aller à la présidence du Conseil du Trésor.
Pour remplacer Scott Bryson. C'est donc, encore une fois, donc, c'est l'effet domino. Dans le cas d'O'Regan, écoute, il a fait quelques déclarations maladroites concernant les Anciens Combattants. Il a comparé son départ, c'est un ancien journaliste, il animait une émission à CTV, il a comparé son départ de la vie journalistique aux militaires qui reviennent d'une mission de combat.
Oh, boy!
Fait que ça n'a pas passé.
Méchant jugement, ça, là.
Ça n'a pas passé.
Ben, mais hein.
Puis là, ben, écoute, c'est un ancien journaliste, c'est quelqu'un qui est habituellement habile pour communiquer. Là, il ne l'a pas démontré dans ce dossier-là, donc ça ne passait plus avec les anciens combattants. On l'envoie au service aux affaires autochtones.
Ouais, mais je veux dire, s'il n'y a pas plus de jugement, Carl, s'il n'y a pas plus de jugement aux affaires autochtones qu'il y en avait aux anciens combattants, là. Ouais.
Mais il faut dire que ce ministère-là, faut rappeler, hein, le ministère des Affaires autochtones a été scindé en deux. Donc, lui, il va s'occuper des services, donc la santé, l'éducation, etc.
L'eau potable,
oui, très important. Mm-hmm. Mais toutes les relations avec les traités, ça demeure dans les mains de Carolyn Bennett. Jane Philpott au Conseil du Trésor, écoute, elle n'a pas été très, très visible. On dit que c'est quelqu'un qui est minutieux. C'est son deuxième remaniement pour elle. Elle a un gros dossier sur les bras. Mm. C'est toute la question du système de paix Phoenix. Évidemment, c'est le Conseil du Trésor qui gère ça. Mm. On lui a posé la question ce matin. On peut l'écouter.
On est en train d'aider tous qui sont affectés par ça, et je vais travailler avec la ministre Qualtro pour continuer d'améliorer ce système-là. Mais ce qu'on sait maintenant, et on est en train de préparer un nouveau système.
Oui, mais on va espérer que le prochain va marcher. On va espérer aussi que tous ceux et celles qui n'ont pas été payés ou mal payés vont finalement l'être là, correctement. Hein?
Dernière chose, on a une nouvelle ministre avec un nouveau ministère, le ministère du développement de l'économie rurale.
Bon.
C'est un ministère inventé qui a été donné à Bernadette Jordan, qui devient la ministre de Nouvelle-Écosse. Évidemment, Scott Bryson était en Nouvelle-Écosse. Son départ, on avait un trou, il fallait le remplir. On s'est inventé un ministère. Il y a de la gestion de caucus là-dedans. Les députés ruraux du Parti libéral ont un peu peur parce que les conservateurs sont en hausse. Il y a une volonté de démontrer qu'on en fait plus pour les régions.
Qu'on n'est pas juste un parti des villes. Hein? Les libéraux...
C'est ce qu'on veut démontrer.
Voilà.
Donc,
okay.
C'est ça que... C'est Bernadette Jordan de Nouvelle-Écosse qui obtient ce ministère.
OK. On reste à Ottawa parce que, désolé, ça va-tu? T'es-tu triste?
Oui, moi?
Paul?
Oui.
T'es triste, hein?
Non, pas
mais
du tout.
C'est parce que
ça dépend triste pourquoi.
D'habitude, c'est toujours toi qui vole le show, là. Puis là, tu vas être obligé de faire preuve d'un petit peu d'humilité.
Ben, je vais être comme le nouveau ministre de la Justice. Je vais faire preuve de leadership dans un contexte d'équipe, Bernard.
Très bien. Alors, Carl, on continue avec toi encore quelques minutes sur l'Arabie Saoudite. Parce que parallèlement à tous ces événements que tu viens de nous décrire, il faut se rappeler qu'en fin de semaine, on a quand même accueilli une nouvelle réfugiée chez nous. Et elle fuyait donc le régime saoudien. Une décision, somme toute, je pense, assez courageuse. Sauf que l'Arabie saoudite, les Saoudiens sont en beau fusil après le Canada. Et là, ils nous menacent.
Ben oui, mais écoute, la demoiselle en question, une jeune de 18 ans qui s'était ramassée en Thaïlande, s'est barricadée dans une chambre d'hôtel.
On voulait la forcer, hein? On voulait la forcer à se marier.
Et c'est ça. Hein? Donc, elle a fui sa famille. Elle dit qu'elle avait peur pour sa vie personnelle, évidemment, mais sa condition physique. On avait peur pour son intégrité, tout ça.
Parce qu'elle voulait renoncer, il faut le dire. Elle voulait renoncer à l'islam. Et en Arabie saoudite, si tu renonces à l'islam, c'était passible la peine de mort.
Exact. Donc, évidemment, peur pour sa vie. On la comprend. Donc, c'est barricadé à Bangkok. Voulait pas se faire, évidemment, retourner. Ben, la Thaïlande avait une patate chaude sur les mains. Veut pas gérer ça non plus. Et là, le Canada a répondu présent parce que la dame en question, le Raaf Mohamed Al-Kounoun, était sur Twitter. Puis elle appelait à l'aide et ça l'a mobilisé évidemment plusieurs intervenants au niveau international, des gens de l'ONU, etc. Et le Canada a répondu présent. Nous, on va la prendre. Belle histoire. Absolument une très belle histoire. On l'accueille au Canada. Et là, évidemment, on fait de la récupération politique. Chrystia Freeland elle-même va l'accueillir à l'aéroport. Les caméras, les photographes.
T'as-tu eu un petit malaise, toi, quand t'as vu ça?
Ben, je trouvais ça un peu beaucoup.
Ouais.
Tu sais,
Paul,
elle avait même sa casquette de l'ONU. puis son chandail du Canada.
Oui, oui, c'est exact, ça. Non, mais c'est de voir la ministre Freeland qui est à l'aéroport puis qui met la main autour des épaules de la jeune femme et tout ça, trouvais-tu que ça faisait un peu récupération politique?
Oui, puis quand je dis que la jeune femme, elle avait un chandail du Canada, ben, je pense pas que c'est elle qui se l'est acheté en Thaïlande, là. ni la casquette de l'ONU. Donc, ça s'inscrit dans le tout de mon commentaire sur la récupération, Bernard.
L'objectif, c'est de se montrer dur contre l'Arabie saoudite. Hein, on va jouer des bras, on est tough, mais on touche toujours pas au contrat des blindés. Évidemment, on a eu la réaction qu'on voulait de l'Arabie saoudite. Le porte-parole de l'Arabie saoudite sur les médias sociaux a dit ceci. À nos amis canadiens, les politiques provocantes et immatures de Chrystia Freeland et de Justin Trudeau contre le plus grand pays du Moyen-Orient et le cœur du monde arabe, musulman et de l'Arabie saoudite pourraient conduire les grandes nations arabo-musulmanes à revoir leurs relations avec le Canada.
C'est assez urbi et orbi, ça, comme menace, mon ami?
C'est très clair.
Parce qu'ils disent on est des leaders dans le monde arabe, on pourrait prendre le leadership d'un mouvement anti-Canada au sein du monde arabo-musulman. C'est ça la menace qui a été énoncée, là.
Et c'est exactement ça.
OK. Bien, à suivre. Pendant ce temps-là, faut pas l'oublier, Raif Badawi, lui, est toujours emprisonné. Hein, toujours. Rappelez-vous, sa femme et ses enfants sont avec nous à Sherbrooke. Et je vous rappelle qu'un peu plus tard dans l'émission, on va parler avec la maman de cette femme, Nathalie Morin, qui est en Arabie saoudite avec ses 4 enfants depuis 13 ans. Elle est retenue là-bas avec ses 4 enfants depuis 13 ans. Elle aussi, il ne faut pas l'oublier, Nathalie Morin. On va s'arrêter au retour. Paul va finalement pouvoir prendre la parole.
J'en brûle d'envie.
On est-tu obligé?
Hey, t'es un joueur d'équipe, t'as là, oublie pas. Le leadership au sein de l'équipe. Dans un instant. OK, juste pour vous dire qu'on continue à suivre pour vous donc cette opération d'urgence là, dans une école de La Salle. Là, il y aurait une quinzaine d'enfants qui fréquentent l'école des Découvreurs, donc qui auraient été pris en charge par les ambulanciers. On parle d'une possible intoxication au monoxyde de carbone, disent les porte-parole d'urgence santé. Les enfants vomissaient, étaient étourdis, mais aucun ne serait tombé inconscient. On ne connaît pas encore la source de l'intoxication. Il y a plusieurs journalistes qui couvrent ça, Philippe Tessera-Lessard notamment. Notre journaliste Annie Guillemette est en route pour se rendre à l'école des Découvreurs, donc à La Salle, et dès qu'on aura des nouvelles, on vous en donne. On continue donc avec Carl et Paul. Paul, parle-nous un petit peu de cette rencontre cet après-midi. C'est fort intéressant entre la ministre de la Justice, Sonia Lebel, et les représentantes des 3 partis d'opposition.
Oui, pour mettre en contexte, on sait qu'il y a parmi les femmes qui se disent victimes de crimes sexuels, il y en a seulement une minorité qui porte plainte à la police. Mm-hmm. Et lorsqu'une plainte est déposée, c'est seulement une minorité des cas qui mènent à des accusations et à des condamnations. Le sujet est revenu à l'ordre du jour en décembre dernier, quand il y a seulement une des plaignantes contre Gilbert Rozon qui a réussi là, à mener à des accusations. Donc, Sonia Lebel a déjà rencontré des gens du milieu de la justice et aujourd'hui, elle rencontre ses vis-à-vis de l'opposition. Ce matin, elle en a parlé à Paul Arcand, puis tu vas voir qu'elle a quand même tenu à baisser les attentes.
Prioriser peut-être une nouvelle attitude, une nouvelle approche.
C'est ça.
Faire en sorte qu'on comprenne mieux les victimes. Et on ne changera pas les lois.
Non. En tout cas, ce n'est pas l'objectif à court terme parce que, premièrement, c'est hors de ma portée. Deuxièmement, je veux agir le plus rapidement possible. Puis je veux trouver des choses. Donc, c'est le processus de la victime, l'accompagnement. Okay.
Quand il y a des gens qui vous êtes peut-être surpris d'entendre la ministre de la Justice dire c'est hors de ma portée, ben c'est parce qu'elle parle du code criminel, donc des lois qui relèvent du fédéral, mais il y a quand même plusieurs choses qu'elle peut faire. Oui. L'opposition a émis entre autres 2 propositions. La première qui est venue de Véronique Yvon du Parti québécois, c'est de créer un tribunal spécialisé. La deuxième qui vient entre autres de Québec solidaire, repris par d'autres, c'est d'abolir les délais de prescription. Dans les 2 cas, moi j'ai la CAQ s'est pas positionnée officiellement. Moi mon impression, c'est qu'ils n'ont pas encore toutes les infos là-dessus. Ils sont vraiment... c'est vraiment embryonnaire, où on en est rendu.
Ils ne se sont pas fait une tête.
C'est
encore.
Ça. Non, ils veulent comprendre, en fait. Ils veulent comprendre, par exemple, tribunal spécialisé. Est-ce que le problème, par exemple, c'est qu'il y a un manque de formation pour les procureurs, pour les juges? Est-ce que c'est ça l'objectif du tribunal spécialisé? Et si c'est ça, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la formation sans passer par le tribunal? Ou est-ce que c'est un moyen nécessaire pour le faire? Aussi, comment est-ce que tu implantes ça dans toutes les régions du Québec? Est-ce que finalement, ça serait seulement limité à certaines régions et donc il y aurait des laissés pour compte. C'est ce genre de questions-là que la CAQ se pose.
Très bien. Oui, oui. Puis c'est ça. Il y a cette réunion, cette rencontre à 14 heures et on verra bien ce qu'il en sortira. Mais je suis d'accord avec toi, Paul, qu'ils ne sont pas prêts à prendre une décision à court terme. Là. Mmh. Ils vont se donner le temps de réfléchir. OK, on retourne à Carl. C'est décidément ta journée, mon cher Carl. Il faut parler un petit peu de cette annonce de Mélanie Joly, donc, qui prend le relais du gouvernement Ford en Ontario, qui laisse tomber donc le groupe qui travaillait sur l'Université francophone de l'Ontario. Ils n'ont plus d'argent. Et là, Mélanie Joly a annoncé littéralement pendant la nuit qu'elle allait mettre 1,9 million d'argent du fédéral pour permettre au groupe de continuer à travailler.
Oui, donc l'université va survivre au moins jusqu'en janvier 2020. C'est une annonce qui est venue tard dans la nuit, mais on a quand même un extrait sonore de Mélanie Joly.
De la future Université francophone de l'Ontario. Maintenant, étant donné que le projet relève de la province, étant aussi longtemps que la province n'a pas déposé son projet, le gouvernement fédéral ne peut pas aller de l'avant. Nous avons trouvé une façon créative de pouvoir soutenir le projet, l'équipe et maintenir les emplois.
Et maintenir la pression sur Ford et faire de la politique un petit peu.
L'argent vient du plan d'action pour les langues officielles. Les fonds provinciaux s'épuisent demain. Silence radio de Caroline Mulroney pour l'instant.
Ouais.
Mais bonne nouvelle quand même.
Oh oui, c'est une bonne nouvelle. Le fédéral, qu'est-ce que tu veux? Ils se font pas. Les francophones de l'Ontario se font pas aider par leur propre gouvernement. Ben, que le gouvernement du Canada prenne le relais, on va toujours bien pas s'en plaindre. Par ailleurs, autre dossier que tu suis pour nous, Jack Meadsing, le chef du NPD qui s'est mis les pieds dans les plats en fin de semaine.
Il était invité à l'émission Question Period de CTV, qui est l'émission d'affaires publiques au Canada anglais le dimanche matin. L'animateur lui a demandé ce qu'il pensait de la déclaration de l'ambassadeur chinois là, qui a dit la semaine dernière que le Canada a arrêté Meng Wanzhou, cette dirigeante de Huawei, au nom du suprémacisme blanc.
Oui. Il a accusé le Canada de faire du suprémacisme blanc en arrêtant la dame.
Alors, on lui a posé la question à Singh. Qu'a-t-il répondu? Écoute ça.
Sorry, who accused you of white supremacy?
Il savait pas de quoi le
pas au courant.
Hein, il était pas au courant. Pourtant, ça a fait les premières pages de tous les journaux, cette affaire-là.
C'était pas juste une déclaration, c'était un texte écrit. Là, ça, les mots avaient été mûrement pesés par la Chine.
Alors, Jack Meadsing qui répond à l'animateur de qui c'est qui nous accuse de supprimer? Je sais pas de quoi vous parlez, là. De quoi vous parlez?
Sorry, who accused you of white supremacy?
Eh, boy, ça va pas bien.
Fait que là, écoute, son entourage m'explique qu'il n'avait pas entendu la question comme il faut. Mais on admet aussi qu'il n'était pas briefé sur le sujet en profondeur.
Oh, je te dis que Jack Mead, il va falloir que ça se replace bientôt. Là. Il a bien mieux de gagner son élection partielle dans Burnaby South, parce que sinon, c'est bye-bye, mon cowboy. Hein, Carl? Je pense
exactement
qu'on peut dire ça. Hein?
Bye-bye, mon cowboy.
Merci, Carl Bélanger. À demain, Paul Journet. Oui. Tu vas avoir ta chance demain de parler. Tu vas voir.
Demain, sera un jour meilleur.
Je vais faire preuve de leadership dans notre équipe unie.
Dans un contexte d'équipe, Bernard.